On est de retour et je discute avec Pierre-Olivier Morisset, qui est professeur de recherche chez Mérinov. On a parlé récemment justement de pouvoir remplacer des produits pétroliers par des carcasses de crustacés. Eh bien, chez nous, ça fait déjà depuis les années 90 qu'on travaille justement avec ces produits-là qu'on appelle la chitine qui devient du chitosan. Bonjour, Pierre-Olivier Morisset, bonjour.
Bonjour.
Oui, c'est pas d'hier. Donc, chez Mérinov, on travaille dans ces produits-là depuis les années 90 qu'on a développé une certaine expertise.
Oui, notamment avec des entreprises québécoises. Mérinov travaillait à développer des avenues pour valoriser les carapaces de crevettes, dont la voie de la chitine et du chitosan. Le marché était très intéressé dans les années 90 jusqu'au début des années 2000. Ça s'est estompé un peu par la suite. Puis là, avec l'engouement qu'on vient de voir autour des derniers articles dans les journaux, on voit que l'engouement vers les biotechnologies marines bat son plein.
Oui, et puis d'autant plus qu'à partir de 2020, vous allez m'expliquer, mais il y a une loi qui est passée qui fait en sorte qu'on ne pourra plus maintenant se débarrasser comme ça des carcasses, là, entre autres de crevettes, de homards, de crabes et tout, là.
Oui, c'est justement, il y a une loi québécoise qui devrait rentrer en vigueur en 2020 qui va proscrire d'envoyer les déchets de transformation des produits de la mer à l'enfouissement. Donc, les entrepreneurs en transformation vont devoir se trouver des moyens de valoriser, que ce soit par le compostage ou en extrayant des molécules à haute valeur ajoutée de leurs déchets pour en faire des produits utiles à la société.
Bon, alors là, on va expliquer qu'est-ce que c'est dans le fond de la chitine et puis chitosan. Là, vous allez nous démêler un petit peu là-dessus, parce que quand on dit aux gens, une carapace de crevettes pourrait à un moment donné remplacer des produits pétroliers pour faire du plastique, nos yeux, c'est comme s'écarquiller un peu. Alors, qu'est-ce que c'est au juste et comment ça fonctionne?
Donc, la chitine, il faut savoir que c'est un polymère. Donc, un polymère, c'est une longue chaîne, une très, très grosse molécule composée d'une chaîne qui se répète de toujours la même molécule, qui est naturelle, évidemment, qui est la molécule la plus présente dans le domaine animal, le polymère le plus présent dans le domaine animal. C'est ce qui compose la carapace, en fait, de tous les crustacés et des insectes. C'est une molécule qui peut devenir extrêmement rigide en fonction de son repliement. Puis, justement, comme la plupart des polymères d'origine naturelle, on peut jouer avec, si on veut, avec des moyens chimiques ou mécaniques pour en faire un peu ce qu'on veut.
Je prends juste visuellement de visu une carapace de crevette. Donc, c'est comme, on le voit là, la coquille, ce qu'on appelle le polymère qui la protège. Donc, c'est plus flexible que, entre autres, la carapace du homard qui, elle, est beaucoup plus dure. C'est un peu ça?
Oui, exactement. En fonction de l'espèce et de ses besoins de flexibilité, notamment, ils vont avoir une chitine qui va être plus dure ou plus molle, ce qui va aussi dicter un peu les avenues qu'on peut avoir avec cette chitine-là.
Quand on parle de recherche chez Mérinov à base de carapace, prenons l'exemple, du homard. Tiens, alors, qu'est-ce qu'on fait à partir de la carapace du homard pour ensuite transposer ça ou transformer ça pour arriver à un plastique, là?
Pour extraire le chitosan, il y a deux traitements qui vont se suivre, un à la suite de l'autre. D'abord, on va traiter avec une base pour enlever, ou un acide, pour enlever les protéines puis le calcium de notre carapace, si on peut les récupérer d'une autre façon. Puis une fois qu'il nous reste que la chitine, c'est-à-dire 30% de ce qu'on avait au départ, là, on va faire un traitement avec une base forte, qui est le NaOH, la soude caustique, qui va nous permettre de cliver, donc de retirer les petits bouts qui font la différence entre les petites molécules, donc l'acétyl, qui fait la différence entre la chitine et le chitosan. C'est deux bains successifs qui vont nous permettre de retirer du chitosan un à ceux de l'autre. Ce qui est difficile à contrôler, c'est des conditions comme la température, l'agitation, des choses comme ça. C'est ce qui vont faire une différence.
Et quand à l'autre bout de la chaîne, quand ça sort le chitosan, c'est liquide, c'est à quoi
on
ça?
Peut le on peut. Non, c'est si on produit du chitosan de très longue chaîne, c'est pas soluble. Ce qui en fait un bon plastique, parce que si c'était soluble dans l'eau, notre plastique se dissolverait tout le temps.
OK.
Donc, on récupère plutôt sous forme d'une pâte ou d'une poudre à la fin.
Et après ça, là, on commence à l'utiliser pour les différents produits dont,
oui,
on va parler, là, justement, le produit antibactérien pour les hôpitaux, cosmétiques et tout.
Exactement. À partir de la poudre, on peut lui faire subir les traitements dont on a besoin pour faire les produits qu'on recherche.
OK. Et maintenant, bon, chez Mérinov, on a déjà fait de la recherche et on va en faire encore par rapport aux produits pétroliers. J'aimerais vous entendre parler là-dessus. Donc, on dit que ça pourrait remplacer le plastique, tous ces crustacés-là. Comment on arrive à faire ça?
Oui. C'est sûr que là, faut faire attention. Par contre, quand on dit qu'on va remplacer tout le plastique, il va toujours avoir seulement qu'une petite partie du plastique qui pourrait être remplacée par des plastiques à base de chitosan. D'une part, parce qu'on pêche pas assez de crustacés pour remplacer tout le plastique qu'on consomme au Québec, là. On a tendance à l'oublier puis à le voir comme étant un problème mineur, mais on consomme énormément de plastique au Québec. Il se produit en Gaspésie, il se produit entre 3 et 4 000 tonnes de carapace par année qu'il faudrait valoriser et qui sont composées environ à 30 % de chitine chacune. Donc, quand on regarde ça, on pourrait produire plusieurs tonnes, des centaines de tonnes de plastique, mais c'est loin de répondre à tous nos besoins en termes de plastique.
Donc, on comprend qu'on ne pourra pas tout remplacer ça, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec justement le chitosan ou la chitine en ce moment pour le plastique? Ça ressemble, c'est-tu des bouteilles de plastique? Est-ce que c'est des appareils? Parlez-moi un petit peu de ça.
Le plastique, à partir de chitosan, a plusieurs propriétés qui peuvent être intéressantes. Le chitosan est un bon antimicrobien, notamment antibactérien. Donc, on pourrait l'utiliser dans des applications de plastique antimicrobien, que ce soit en incorporant le chitosan à un mélange de plastique qui provient du pétrole, pour éviter d'avoir à incorporer des agents antimicrobiens, qui soient minéraux ou pétroliers. Ou sinon, on pourrait produire des emballages à partir des emballages un peu style cellophane à partir de chitosan pour emballer, disons, des viandes pour en prolonger la conservation. Il y a notamment une entreprise, une start-up à Montréal qui ont gradué de Polytechnique qui travaille au développement d'une pellicule plastique à base de chitosan qui permettrait de prolonger la durée de vie des aliments.
Oui, et puis on a parlé avant l'entrevue aussi de possibilités de comptoirs dans le secteur hospitalier.
Oui, ça c'était l'application dont je parlais au début, là, l'incorporation de chitosan à du plastique. C'est sûr que pour l'instant, le chitosan ne permettrait pas de produire des très gros blocs solides de plastique, mais plutôt des emballages. Par contre, si on veut conserver la propriété antimicrobienne, antibactérienne du chitosan, on pourrait l'intégrer à un mélange de plastique qui permettrait de faire des comptoirs dans des domaines où il faut limiter les contaminations croisées. Donc, ça permettrait de faciliter l'entretien des installations, que ce soit en milieu hospitalier ou alimentaire.
Donc, il y a tout un potentiel par rapport à ça, donc produits pétroliers, plastiques et tout. Mais on va même plus loin parce que là, vous allez me parler de cosmétiques, parce que là aussi, on utilise des produits pétroliers dans le cosmétique, mais on pourrait utiliser du chitosan aussi.
Et puis, c'est déjà utilisé d'ailleurs dans le domaine cosmétique parce que la technologie du chitosan est peut-être un petit peu plus facile à adapter au domaine cosmétique, parce qu'en cosmétique, on cherche du chitosan à plus petite chaîne, qui est plus facile à produire, pour produire notamment des épaississants pour produire des bases de shampoing ou de crème dans le domaine cosmétique, ou on peut même aller dans des domaines à plus haute valeur ajoutée encore, donc dans le domaine médical, où avec ce même genre de chitosan-là, on pourrait construire des échafaudages pour de la culture de cellules ou produire des hydrogels qui nous permettraient d'aller porter des médicaments à des cibles plus précises, notamment dans le domaine du cancer.
J'aimerais que vous m'expliquiez un petit peu cette dernière propriété-là. d'hydrogel et de cancer. Qu'est-ce que c'est au juste?
Bien, la façon que ça fonctionnerait, c'est qu'on encapsule les médicaments anticancers qui sont de chimiothérapie qui seraient dirigés vers la cellule, vers les cellules cancéreuses ou les tumeurs. Et plutôt que de les envoyer librement aux cellules cancéreuses en très grosse dose au début qui diminue rapidement, on l'enverrait dans la même dose, mais encapsulé dans un hydrogel de chitosane qui jouerait le rôle de restricteur, qui permettrait de libérer tranquillement le médicament pour qu'on ait un traitement un peu moins dur au début, mais plus constant sur toute la durée du traitement.
Excellent. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres... Là, on a fait pas mal tout le tableau d'exemple, hein, j'imagine, oui. Pas mal,
oui, bien, okay. Ça fait pas mal le tour
des propriétés, là.
Domaines connus. Il y a aussi, on l'utilise dans le traitement des eaux pour décontaminer des eaux de mines ou d'usines qui contiendraient beaucoup de métaux lourds ou beaucoup de protéines qu'on ne peut pas renvoyer dans l'environnement, parce que le chitosan a cette capacité-là à capter les contaminants dans l'eau, puis à précipiter ensuite, ce qui fait que c'est plus facile à récupérer que si on y va par d'autres méthodes chimiques.
Alors, voilà plusieurs propriétés pour le chitosan. Alors, chez Mérinov, j'aimerais qu'on parle. Est-ce que vous avez fait des recherches dans tous ces secteurs-là pour en parler aujourd'hui comme ça? Ça veut dire qu'on a touché à peu près à tout ça?
Là, je parle de choses que je connais qui ne viennent pas uniquement de chez Mérinov. Mais en effet, Mérinov a travaillé beaucoup sur les propriétés, mais surtout la production de chitosan, les façons de produire des chitosan avec des tailles précises, connues, pour en faciliter l'application ensuite dans l'industrie. Donc ça c'était l'étendue de la plupart des projets de recherche chez Mérinov pour l'instant. Mérinov a développé des stratégies de production qui permettent de produire des très longues chaînes de chitosan qui sont extrêmement utiles, qui sont recherchées en fait dans le domaine des plastiques.
On a parlé beaucoup là, justement des années 90-2000 où on a fait de la recherche là-dessus. Et vers où on s'en va? Parce que là, il semble y avoir des ouvertures qui reviennent par rapport à ce produit-là. Alors, oui, c'est ça, hein?
Oui, malheureusement, je ne peux pas vous parler de ce qui s'en vient parce que comme on est en collaboration avec des entreprises, elles préfèrent garder leur technologie pour elles, parce que c'est leur avantage concurrentiel. Donc, à partir de ce moment-là, je ne peux plus vraiment parler des projets qui s'en viennent chez Mérinov. Autre que dire qu'il va y avoir des projets sur le chitosan et la chitine.
OK, on peut parler de ce qui s'est déjà fait, mais on ne peut pas...
Ouais.
Donc, ce que je peux comprendre en terminant, Pierre-Olivier, c'est que dans l'avenir, on va s'en servir pour créer d'autres produits?
On va travailler sur l'amélioration des procédés parce que notamment, un des reproches qu'on fait au chitosan, c'est que ça nécessite une énorme quantité d'eau à produire pour le récupérer. Par contre, on pourrait assez aisément travailler à la récupération de cette fraction d'eau-là et d'une autre part, réduire les quantités de réactifs qu'on utilise pour atteindre nos objectifs. Ça, c'est une des pistes de solutions sur lesquelles on peut travailler. Ce que j'aimerais ajouter, par contre, c'est que tous les projets qui s'en viennent chez Mérinov vont être faits de pair avec des entreprises québécoises qui ont l'intention d'avoir des retombées en Gaspésie dans les prochaines années.
Oui, j'allais vous demander, parce que quand vous parlez d'entreprises, j'allais vous dire, est-ce que les entreprises sont de la Gaspésie? Oui.
Je ne peux pas vous confirmer que les entreprises sont de la Gaspésie. Je peux seulement vous confirmer que les entreprises sont québécoises et que les projets vont avoir des retombées en Gaspésie.
Et c'est lié, on comprend, avec la loi qui entre en vigueur en 2020. Donc, on comprend que ce qu'on produit, vous parliez tout à l'heure de carcasses de crustacés qui vont finalement trouver preneur.
Oui, c'est ça. Les 3 à 4 000 tonnes de carcasses, on espère qu'elles vont trouver preneur le plus rapidement possible. Puis si ça nous permet de développer des produits à haute valeur ajoutée et de devenir des leaders dans le domaine des biotechnologies au Québec, Ça va faire un énorme plus pour la région et pour Mérinov.
Oui, et ça va créer de l'emploi. Donc, on s'entend qu'il y a des
Oui.
entreprises qui vont venir ici pour transformer et faire des produits qu'on connaît peut-être déjà ou d'autres produits ou de nouveaux produits.
Exactement.
Intéressant. Hey, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions et de nous avoir allumé sur, franchement, les perspectives, ce qu'on a connu, mais il y en aura d'autres, du chitosan à base justement des produits de la mer qu'on connaît. Merci beaucoup, Pierre-Olivier Morisset, chercheur chez Mérinov.
Ça m'a fait plaisir. Merci beaucoup.